Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'écouter Studio Tamani, il est 8h sur l'ensemble de notre réseau synchronisé à travers le pays. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le journal. La population d'Intilit continue de se réfugier vers les localités voisines. Des habitants décrivent une situation critique et appellent l'État et les partenaires au secours. Bicéphalisme à l'Association des éditeurs de la presse privée, ACEP. Des membres de l'association annoncent la mise en place d'un comité transitoire. Le bureau en place conteste et dit reste serein. CHAN Algérie 2023, le Mali fait sa première sortie cet après-midi. Les aigles locaux affrontent l'Angola 17h à Oran. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement avec Sekou Gadjigo. Nouveau Mdjiréa sur la mise en onde. Intilit, devenu un village fantôme depuis l'ultimatum donné par les terroristes de l'État islamique au Grand Sahara mardi dernier. C'est en tout cas ce que nous rapportent des habitants de cette localité du cercle de Gao. Selon ces derniers, il ne reste que les vieilles personnes sur place. Le reste de la population est parti se réfugier dans des lieux plus sécurisés. Les explications avec Oumar Waïgalo.
Gao Ville, Gossi, Dora, Intahaka ou encore le Nuzer. Voilà les localités où se dirige la population d'Intilit après la menace de l'IS. Nous avons tout laissé derrière nous, nos animaux, nos magasins remplis de céréales et nos bagages, regrette ce chef de famille qui s'est réfugié à Gao. Les populations se déplacent massivement à bord des véhicules, des charrettes, des tricycles et à dos d'âne et des chameaux et parfois même à pied, témoignent d'autres habitants. Selon un élu local, aucun dispositif n'a été pour le moment mis en place pour sécuriser la commune d'Intilit. Cependant, il affirme que les habitants qui se sont déplacés à Gao ont reçu la visite du sous-préfet. Un membre de l'autorité intérimaire de la région indique que des correspondances ont été adressées aux autorités régionales, aux organisations humanitaires et aux partenaires financiers afin que ceux-ci puissent venir en aide aux déplacés. Mardi dernier, les terroristes de l'IS ont donné 4 jours à la population d'Intilit de quitter le village. L'IS les accuse de collaborer avec son rival, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Des sources locales, les terroristes sont revenus emporter tous les bétails du village.
L'autorité intérimaire de la région de Gao confirme l'arrivée massive de ces déplacés d'Intilit dans la ville. Al-Gatek Ag Waha, membre de l'autorité intérimaire de Gao, dit craindre des risques sanitaires de cette situation. Il lance un appel au gouvernement et aux partenaires de venir en aide à ces déplacés. Il est joint au téléphone par Oumar Waïgalo.
Je profite pour lancer un appel aux autorités administratives et politiques pour venir en aide à cette population victime, vulnérable sur beaucoup d'activités. Et l'appui urgent en alimentation, c'est-à-dire en céréales et produits alimentaires, et puis la réalisation des points d'eau pour stabiliser ces arrivées là sur les nouveaux lieux d'accueil. La santé aussi, donc il y a tous ces problèmes qui vont se combiner sur ces populations là et qui les rendront la vie difficile.
8h03 dans la cité des Askia. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 5 morts, dont un civil, c'est le bilan de l'embuscade contre une mission de sécurisation de la route Kuala Murdia dans la région de Nara. C'était hier dimanche sur l'axe Gomitra-Kuala. L'information a été communiquée par l'armée malienne. Elle a précisé que 15 terroristes ont été neutralisés par des unités terrestres et l'aviation. La première édition de la Journée nationale de souveraineté retrouvée a été célébrée samedi dernier 14 janvier. Elle commémore désormais le grand rassemblement des Maliens suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA le 14 janvier 2022. À Bamako et à l'intérieur, la journée a été marquée par une leçon de morale dans les écoles et des conférences débats sur le patriotisme et la citoyenneté. Pour le collectif Espoir Malikoura, cette commémoration était inopportune vu le contexte actuel du pays. Kouma Finkeita.
À Kaï, plus de 100 personnes ont pris part à une conférence sur le patriotisme. Elle a été animée par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. À Sikasso, la journée a mobilisé toutes les forces vives. Le ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles a fait le tour des actions de souveraineté posées par la transition. À Koro, dans la région de Bandiagara, une leçon modèle centrée sur le patriotisme et le sursaut national a été dispensée au lycée Abirigouri, alors qu'à Ségou, des sujets de refondation, de développement et d'éducation ont dominé les débats. La rencontre a pris fin par la remise de 50 tricycles aux personnes en situation de handicap par le Premier ministre. Toutefois, si certains ont apprécié cette initiative, le mouvement Espoir Malikouroua estime que le 22 septembre 1960 est la date indiquée pour célébrer la souveraineté du Mali. Il invite les autorités de la transition à poser des actions concrètes afin de restaurer la paix et la sécurité dans le pays.
Je vous le disais dans les titres, crise au sein de l'Association des éditeurs de la presse privée, ACEP. Depuis ce samedi, deux bureaux revendiquent la présidence de l'ACEP suite à l'Assemblée générale ordinaire de l'association. Selon des membres de l'ACEP, le bureau a été démis et un comité transitoire dirige désormais l'association. Mais le bureau en place ne reconnaît pas cette décision et affirme qu'il reste l'instance légale de l'association. Plus de détails avec Alima Yatara.
Le bureau en place de l'ACEP conteste cette décision et dit rester serein. Selon son secrétaire général, ceux qui parlent de comité transitoire sont des perturbateurs. Ousmane Balo, secrétaire général de l'ACEP.
Ils veulent juste donc perturber le bureau. Ceux-là qui demandent aujourd'hui à ce qu'on quitte connaissent mieux la procédure parce qu'ils ne puissent, bien sûr, dans les textes. Ça veut quoi? Ils ne veulent pas que les gens aillent sur ce plan-là. Sinon, ils savent bien comment est-ce qu'on doit obliger un bureau à tenir une assemblée extraordinaire. Et la procédure compte de tous.
L'Assemblée générale est souveraine. Quand elle prend une décision, cela fait force de loi, rétorque Ibrahim Choukari, un des membres du nouveau comité transitoire de l'ACEP. Selon lui, le bureau en place a failli dans sa gouvernance.
Ils ont abandonné les salles et les autres ont mis en place un comité transitoire. Dès l'instant où, dans la gouvernance, ils ont failli. Parce que normalement, quand tu es un bureau qui dirige toute la presse, la gouvernance doit être rigide et on ne doit pas voler en solitaire. Quand on va en solitaire, il n'y a pas de raison que les gens ne se revoient pas.
Rappelons que le bureau actuel de l'ACEP a été mis en place le 11 juin 2022 pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.
Le faux compte dénommé Gauthier Pasquet sur Twitter a affirmé la semaine dernière que le gouvernement malien a déclaré l'état d'urgence à cause de la menace sécuritaire autour de Bamako. C'est le sujet de la rubrique Vérifions avec Fatoumata Kodjo.
Effectivement, dans son tweet du 12 janvier dernier, le faux compte au nom de Gauthier Pasquet, jamais identifié, publie ceci. Mali, le gouvernement déclare l'état d'urgence et le renforcement des emprises. Bamako, désormais encerclé par les djihadistes et la junte qui crée une attaque de masse le 14 janvier, n'a eu autre choix qu'à annuler les festivités de la souveraineté retrouvée. Mais il ne s'agit ni plus ni moins que d'un fake. Comme ça donne d'ailleurs depuis un certain temps, ce faux compte Twitter du nom de Gauthier Pasquet. Ce réclamant journaliste indépendant, lanceur d'alerte, analyste politique, spécialiste d'Afrique de l'Ouest Sahel, il utilise une photo du profil volé du journaliste Türkan Dandar. Il faut noter que cette publication est intervenue après que le gouvernement malien a annoncé dans un communiqué qu'elle sursit à la manifestation du 14 janvier pour des raisons sécuritaires.
La célébration de la journée de la souveraineté retrouvée et la prise de fonction des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, j'y arrive. La crise au sein de l'ACEP sont entre autres les sujets phares traités cette semaine. Le résumé de l'actualité de la semaine dans la rubrique Rétroactu avec Ziadata Maïga.
Commençons par cette rencontre entre le gouvernement et les partis politiques jeudi 12 janvier. Les élections et le référendum constitutionnel étaient au cœur des échanges. Mais la classe politique reste divisée sur la nécessité de rédiger une nouvelle constitution. La première édition de la journée de la souveraineté retrouvée a été célébrée ce samedi 14 janvier. Une leçon modèle sur le patriotisme et des conférences-débats ont marqué cette célébration à travers le pays. L'actualité, c'est aussi la prise de fonction des 15 membre de l'autorité indépendante de gestion des élections, EIGE. Ils sont nommés pour un mandat de 7 ans non renouvelable. On termine par cette crise au sein de l'association des héritières de la presse privée, ACEP. Un comité transitoire se réclame comme étant l'organe dirigeant de l'association. Le bureau en place conteste.
Sport, football, CHAN Algérie 2023, les aigles locaux entrent en lice ce soir. Les protégés de Nouhoum Diané, vice-champion de la dernière édition, affrontent à 17h l'Angola au stade Miloud Adif à Oran. Dans ce groupe D composé de 3 pays, seul le premier se qualifie pour le second tour de la compétition. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal que vous pouvez réécouter sur notre site studiotamani.org. Merci de l'avoir suivi. Il vous a été présenté par Siko Gadjigo, mise en onde Nouhoum Diré. Tout de suite après le magazine, Idrissa Sako sera là pour la version Bamanangan. Vers une gestion des déchets domestiques à Bamako, le gouvernement vient d'investir 300 millions de francs CFA pour l'aménagement du nouveau site devant abriter le dépôt de transit de Medinakura. Les autorités de la transition annoncent également la construction de 25 autres dépôts de transit dans la capitale et 2 stations de vidange à Tiamfala et au niveau de l'aéroport de Senou. Ces décharges finales devront permettre de rentrer les déchets produits dans le district dans un seul circuit. Alors, ce projet pourrait-il permettre fin à la création anarchique des dépotoirs? On en parle dans le magazine Parlons de l'environnement. C'est une réalisation de Mahamad Babakota.
Débutés il y a de cela 3 semaines, ces travaux se poursuivront pour une durée de 3 mois. Une initiative saluée par les autorités de la commune 2. Elles demandent cependant leur implication dans la gestion des déchets dans la commune. Abba Nyaré, maire de la commune 2 du district de Bamako.
Ça fait plusieurs années, nous sommes en train vraiment de lutter pour que le nouveau dépôt de transit puisse être opérationnel. Vraiment, les travaux sont en train de se faire à hauteur de satisfaction et que vraiment, désormais, les populations puissent venir vraiment déverser de l'ordure ici afin qu'on les achemine vers le dépôt final de nos mouvements. Quand même, vraiment, nous sommes animés d'un sentiment de satisfaction, en ce sens que les plus hautes autorités ont prêté attention vraiment à ce que nous avons dit. Cette fois-ci, la communauté souhaiterait être au centre pour que vraiment nous puissions gérer ensemble, parce que c'était la mairie du district qui gérait. Mais nous avons vu que vraiment c'est insuffisant, parce que c'est nous qui abritons la terre même, afin que vraiment qu'on puisse éviter tous les désagréments possibles.
Il y aura également une décharge finale à Noumoubougou, située dans la commune rurale de Tiamfala. Elle sera bâtie sur un espace d'une superficie de 51 hectares. Mais les habitants de cette localité dénoncent déjà les conséquences néfastes de cette décharge.
Dieu seul sait combien nous souffrons à cause de ces déchets. Donc nous ne sommes pas d'accord.
Parce que vous ne deviez pas ramasser les ordures d'une autre localité et venir les jeter chez d'autres personnes sans leur accord.
Tout le monde a mangé les mouches ici. Il y a tout le temps de moustiques à Tiamfala.
L'eau des déchets a inondé les champs et détruit toutes les récoltes.
De leur côté, les autorités de la transition rassurent. Au cours d'une visite de terrain à la décharge finale de Noumoubougou et au nouveau dépôt transit de Medinakura, le ministre d'État et de l'administration, colonel Abdoulaye Meïga, estime que de nouvelles dispositions sont en train d'être prises.
On ne peut pas qualifier Noumoubougou de décharge. Pas d'équipement et il y a beaucoup de nuisances. Et je saisis cette occasion pour présenter au nom de nos plus hautes autorités nos sincères excuses à la population riveraine de cette décharge anarchique qui souffre. Mais je voudrais aussi vraiment rassurer la population. Les réponses sont en cours.
En plus de la construction de ces 2 nouvelles décharges, le colonel Abdoulaye Meïga annonce aussi la réhabilitation et la dotation de la voirie à plus de 780 millions de francs CFA.
Malheureusement, la collaboration entre la mairie du district et Ozone n'était pas opérationnelle. Et on voyait très bien qu'il y avait toujours des points noirs. Et en lieu et place à remettre la voirie du district sur pied, grâce à l'appui de l'État. Et ce qui était attendu à Noumoubougou, c'était d'avoir une décharge finale qui est très moderne, qui allait permettre le traitement, le tri et le traitement des déchets.
Notons que ces mesures sont prises au moment où le gouvernement a décidé de résilier le contrat d'assainissement d'Ozone Mali. Cette dernière déplore la décision et exige les paiements de plus de 15 milliards de francs CFA d'arriérés impayés. C'est la fin du magazine Parlons de l'environnement, réalisé et présenté par Mahamane Babakunta. À la semaine prochaine pour un autre numéro.